crosses over the fadeaway.
From the step back and kiss myself.
Oh my MVP gosh, it's time. Over.
Woo! Y'all gonna make me lose my mind. Up in here, up in here. Y'all gonna make me go all out. Up in here, up in here. Y'all gonna make me act a fool. Up in here, up in here. Y'all gonna make me lose my cool. Up in here.
Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce troisième épisode de l'Écho des Parquets, toujours en compagnie de mes acolytes et confrères pour parler NBA pendant une heure avec nous. Alors aujourd'hui, il y a Laurie du Bowling Crew, toujours, salut Laurie.
Salut, salut.
Il y a Lisa, qui est toujours au plus proche du Celtics, qui est là aussi.
Oui, salut.
Salut Lisa, ça va Lisa?
Tout va bien, oui, oui.
Toujours Guillaume de Basket Info.
Salut à tous.
Salut, ça va?
Ça va, ça va.
Et Nico, qu'on peut retrouver aussi sur Basket Info. Mais alors, j'ai aussi vu Nico, j'en ai pas parlé la dernière fois, mais sur Unlimited, NBA.blogspot.com. C'est ça?
Ouais, c'est ça. World of Lots, pareil.
D'accord. Il y a en fait les mêmes analyses sur les deux, c'est ça?
Oui. Je suis d'accord. Va.
Il recycle, c'est bien. Écoutez, j'espère que vous êtes tous prêts parce qu'aujourd'hui il y a un programme chargé. On va parler du coup des outsiders à l'ouest. Donc il y a du monde qui se bouscule au portillon sur les outsiders à l'ouest. On définira aussi clairement qui est favori et qui est outsider. On parlera aussi du cas dans les news. On parlera du cas Royce White. Royce White qui devrait fouler les parquets dès demain avec les Rio Vipers Grand Valley. Et ensuite, on reviendra aussi également sur toutes les dernières rumeurs de trade, celles de Josh Smith, Ayman Shumpert ou encore JJ Redick. Tout ça, si vous êtes prêts, je crois qu'on va pouvoir y aller. Jingle. Et tout de suite pour compter, on va parler de ce rookie Royce White et son parcours un peu atypique, parcours semé d'embûches pour l'instant depuis sa draft. Nico, je pense que t'as quelques trucs à dire sur lui, tu l'as un peu suivi l'année dernière.
Oui, alors c'est un joueur assez atypique dans son profil de jeu, mais surtout ce que tout le monde a retenu, c'était qu'il est une maladie mentale en fait, d'anxiété, ce qui fait qu'il a beaucoup de soucis pour voyager ou pour juste se comporter dans la société. Et c'était une grande question au moment de sa draft. Alors malgré une très très belle saison universitaire qu'il a faite, il y avait ce dilemme entre son talent et les problèmes qu'il allait causer. Mais je pense que vous allez un peu en parler là.
D'accord. Alors justement, sa saison universitaire, donc Iowa State, si je ne m'abuse.
Oui.
Comment ça s'est quand même bien passé pour lui cette saison universitaire? Il n'y a pas eu vraiment de soucis de troubles si pendant cette époque.
Cette saison-là, non. Mais juste avant, il était à Minnesota, enfin l'université de Minnesota, et là pour le coup, il a eu des problèmes où il n'a pas du tout réussi à s'intégrer, je crois, et il n'a même pas eu l'occasion de faire un seul match. Donc même si pendant son année Iowa State elle était bien, celle d'avant c'était pas du tout la même histoire.
Donc là cette année, on rappelle donc qu'il a été sélectionné en 16e position par les Rockets. Il a donc signé son contrat chez les Rockets en début de saison. Et depuis novembre, ces derniers Rockets veulent faire jouer Royce White en D-League. Alors est-ce que c'est suite à ses troubles qu'ils veulent le faire jouer avant, ou c'est pour se préparer à la NBA qu'ils veulent le faire jouer avant en D-League?
Les deux certainement. Les deux.
D'accord. D'accord. C'est ce que je savais pas encore précisément. C'est pour quelle raison.
De toute façon, les Rockets ne diraient pas si c'était pour voir s'ils pouvaient s'acclimater au voyage d'une ligue professionnelle. Il ne dit pas. Mais au-delà de ça, faut pas oublier que même si Ross White est un rookie plutôt connu à cause de ses histoires, ça reste un rookie de milieu de premier tour. C'est pas non plus un joueur à plat devenir une star, peut-être, mais rien ne le dit. Du coup, c'est qu'il aille en D-League au-delà de ses problèmes de santé.
Oui, parce que j'ai l'impression que depuis qu'on a parlé de ce joueur, depuis qu'on en parle et de ses problèmes, on a l'impression qu'il est très attendu. Mais à la fois, c'est vrai que comme tu l'as souligné, c'est un joueur de milieu de premier tour. Alors, je sais pas si Laurie, Guillaume ou Lisa, vous avez un avis là-dessus. Est-ce que il est pas un petit peu trop attendu vis-à-vis de tout ce qu'on a fait autour de lui pour
Ben ouais, c'est clair qu'il est attendu à cause de cette histoire pas banale quoi, le fait qu'il puisse pas prendre l'avion. Il y avait même une news, on a vu qu'il allait traverser le pays en camping-car pour faire les matchs à l'extérieur.
Oui, parce que les Rockets ont pensé à le faire prendre le bus ou prendre des camping-cars pour aller jouer les matchs.
C'est assez fou. Et sportivement, je pense que, comme l'a dit Nico, c'est peut-être qu'à cause de cette histoire, on attend plus qu'on devrait attendre. C'est pas un top rookie de cette année. Après, en général, sur le plan général, je dirais que les Rockets, pour l'instant, ont clairement perdu le pari, quoi.
Pour l'instant, je pense qu'on peut dire ça. Laurie, qu'est-ce que t'en penses?
Bah, c'est vrai qu'on a fait pas mal de buzz autour de lui. Je pense que c'est bien sûr à cause de ses problèmes. C'est la première fois qu'on voit ça quand même, donc ça fait beaucoup parler. Après, moi, j'avais quand même entendu qu'il était pas mauvais et qu'il pouvait quand même apporter aux Rockets. Je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris si haut, d'ailleurs. Donc, après, bon, faut voir, mais s'il revient en des ligues, moi en tout cas je suis bien contente de voir au moins ce que ça va donner, quoi.
Lisa, un avis là-dessus?
C'est encourageant pour le joueur. C'est vrai que beaucoup de gens l'attendent. C'est une bonne opportunité s'il peut aller faire un peu ses armes en des ligues, voir de quoi déjà de 1 il est capable, et si après il peut s'acclimater aussi au trajet des équipes. Et en tout cas, c'était un pari assez risqué pour les Rockets de le drafter si haut. Mais à mon avis, ça va payant d'ici quelques temps.
Nico, qu'est-ce que tu peux nous dire sur justement sa place au sein des Rockets s'il avait été tout de suite dans l'équipe?
Alors, si on met de côté ses problèmes de santé, il est effectivement un très bon joueur de basket. Le problème, c'est qu'il a un profil assez atypique, alors à la fois atypique, donc rare et précieux, mais d'un autre côté, qui est assez difficile à utiliser. Si on pouvait faire une comparaison, ce serait plutôt Boris Diaw. Dans le sens où c'est un joueur qui est un 4 ou voire un 3 avec un très bon dribble, une très bonne qualité de passe, une très bonne vision de jeu, un vrai playmaker. Le problème avec ce genre de joueur, c'est qu'ils ont besoin du ballon. Et là, avec Harden et Jeremy Lin.
Oui, c'est clair.
C'est vrai.
Et de manière générale, pour n'importe quel rookie qui n'est pas installé au poste de meneur, avoir la balle autant que lui, il en aurait besoin, c'est compliqué. C'est pour ça que, dans l'absolu, moi, au-delà de ses problèmes de santé, j'étais pas convaincu du tout de sa réussite à NBA. Dans le sens où il fallait vraiment lui donner une chance, et là je suis pas dit qu'il aurait eu cette chance.
Oui. Voilà, donc du coup, est-ce que c'est pas un problème justement du recrutement des Rockets? Est-ce qu'il n'y a pas eu un souci à la draft? Est-ce qu'ils ont pris le bon personnage pour cette draft, alors qu'il y avait sûrement d'autres choix assez intéressants pour eux en 16e position quand même? Parce que quand on voit les Celtics qui ont choisi Jared Sullinger et Fab Melo en 21e, 22e position, on se dit peut-être qu'il y avait d'autres joueurs avant, non?
Il y avait même de très bons joueurs encore après. Arnett Moultrie, par exemple, qui est un peu qui joue un peu pareil sur le même poste, qui était pas mal. Mais clairement, les Rockets ont voulu faire le pari, ils l'ont perdu. Maintenant, c'est à eux d'assumer, mais... Pour moi, c'est pas scandaleux qu'il aille en ce moment jouer en D-League.
D'accord. Donc, pour revenir là-dessus, sur le passage en D-League, lui, au mois de novembre, quand il a été envoyé en D-League par les Rockets, il a pas du tout apprécié le comportement des Rockets à son égard, et pas apprécié le fait que les dirigeants ne passent pas tout pour régler ses problèmes de soucis de troubles mentaux. Troubles mentaux, enfin entre guillemets, hein, c'est pas non plus un psychopathe le gars.
Non, c'est une maladie.
c'est ça, c'est une anxiété maladie.
C'est une pathologie, ouais.
Voilà.
Donc, est-ce qu'il n'y a pas eu un souci de communication entre l'équipe et le joueur? Parce qu'on se rappelle aussi que le joueur a eu un discours assez sévère sur Twitter où il expliquait que les dirigeants en clair ne faisaient rien. Et t'as eu quelque chose, Nico, là-dessus de quelque chose, un retour à dire?
Ah non, je l'ai pas eu au téléphone, non. Hein.
il t'a pas appelé?
Non, mais après, faut pas trop en vouloir à Ross White. Ça reste un très jeune joueur qui a quand même un problème très particulier, très difficile à gérer. Il a peut-être mal réagi, il a peut-être réagi de façon excessive, mais je veux dire, si on peut pardonner à des rookies de perdre des ballons bêtement, lui, on peut le permettre ce genre de choses.
De toute façon, il avait un passif quand même, il avait déjà eu quand même quelques problèmes de comportement, justement, avant sa dernière année NCAA, donc, en même temps, c'était à prévoir qu'il pourrait réagir comme ça. Moi, après, je suis pas trop d'accord qu'il se soit, qu'il ait bavé pendant des heures sur Twitter. Je pense que c'était à régler autrement. Mais bon, maintenant, les réseaux sociaux et les basketteurs, c'est très développé, donc.
Oui, c'est bon. Ça, ce qu'on a eu. On a eu l'impression, justement. Enfin, moi, c'est vrai que je l'ai lu je le lisais en direct ce soir-là, et j'ai eu l'impression d'un joueur, effectivement, assez à fleur de peau, entre guillemets. Vous voyez ce que je veux dire? Un joueur.
Ah, mais sensible, hein. Sensible.
Qui est tout dans la réaction instantanée, qui prend tout à cœur. Effectivement, c'est là qu'on peut se rendre compte un peu des soucis de, j'ai l'impression, qui n'a pas de recul direct, qui ne prend pas de recul direct et qui prend tout, voilà, comme ça arrive, quoi.
Après, Antoine, on peut pas complètement juger par rapport à s'il a du recul ou quoi, donc on connaît pas vraiment la situation, mais force est de constater qu'il a mal réagi a priori, quoi.
Oui, non, non, c'est, la question de recul, c'était vraiment, je parlais de ça par rapport au tweet,
oui,
je
voilà,
me disais qu'il venait d'apprendre la nouvelle et direct, il va partager avec les gens ce qu'il a ressenti et je veux dire, si chaque joueur, entre guillemets, bon, c'est un rookie, bien sûr, c'est pas pareil, mais si chaque joueur avait un problème avec le staff et s'enflammer tout de suite sur Twitter, effectivement, ça ferait peut-être pas tout le temps avancer les choses.
C'est clair.
Bon, enfin voilà, bref, sur le cas Royce White, si vous avez autre chose à dire, je vous en prie. D'accord, très bien. je crois que le mot est dit.
On attend juste un peu. De
petit moment de solitude.
Non, mais c'est bien, au moins ça prouve que je suis tout seul ici. Donc demain, de toute façon, Royce White, on le retrouve, si tout se passe bien avec les
si
Rio
Grande Valley. Si tout se passe
Grand bien. Voilà, c'est ça, si tout se passe bien, s'il n'y a pas un nouvel épisode. On retrouve avec les Rio Grande Valley demain soir, lundi. Enfin, ce soir, pour si vous nous écoutez aujourd'hui. Et donc voilà, on lui souhaite bon courage pour ses débuts et puis l'avenir nous dira.
On est avec toi, Royce.
L'avenir nous dira s'il a eu raison ou si les Rockets ont eu raison ou pas de choisir Royce White. Voilà, donc Nico, si tu l'as au téléphone, hein, tu nous préviens tout de suite en fil rouge.
On fera un Skype avec lui.
Voilà, donc tout de suite on va revenir avec les trades, les rumeurs de trades. Donc il y a du lourd là parce que ça commence à s'affoler avec la deadline. Donc on revient tout de suite après les jingles.
Garnett wide open, throws it down, and a foul. Can you blow my whistle,
baby? Here we go. Et nous revoici tout de suite avec les rumeurs de trade. Donc les rumeurs de trade qui se font de plus en plus insistantes à l'approche de la deadline. La deadline qui, on le rappelle, est le Guillaume. Tu vas me le dire.
Autour du All-Star Game. Encore fin de mois.
Le 21, non, c'est pas le 21.
C'est vers le 20.
Le 21, le 23, enfin c'est autour du All-Star Game. Je crois d'ailleurs que ça doit être après l'All-Star Game puisque certaines équipes profitent du All-Star Game pour se parler discrètement autour d'une table pour échanger quelques joueurs.
Pas si discrètement que ça du coup.
Non, pas si discrètement que ça, mais ça s'est déjà passé dans les années précédentes. Donc je crois que ça doit être juste après l'All-Star Game.
Oui, c'est ça.
La deadline approche et on entend beaucoup parler de certains noms, comme déjà on peut parler de JJ Redick qui revient quand même assez souvent. On va en parler tous ensemble avec de tout le package, la JJ Redick, Josh Smith, des rumeurs qui reviennent assez insistantes. Josh Smith, JJ Redick, est-ce que vous avez d'autres noms qui vous reviennent?
Il y a Evan Turner qui a été déclaré transférable.
Oui, Turner, mais là je parle vraiment de ceux qu'on entend parler depuis
Sean Marion par exemple.
Sean
Marion, on en a entendu parler en début de mois je crois.
Ah ouais.
Et Sean Marion d'ailleurs qui a dit qu'il ne voulait pas être transféré dans une équipe entre guillemets de merde, d'accord?
Exactement.
Ce qui paraît logique en même temps.
Parce que Dallas domine la conférence en ce moment.
Voilà.
Là-dessus parce que c'est vrai que je voulais savoir qui Dallas maîtrisait complètement la conférence ouest. Donc alors rapidement, JJ Redick, Orlando, il produit des stats intéressantes, 14 points, quelque chose, assez bon shooter, voilà. Est-ce que JJ Redick est dimensionnel, ça on peut le dire. Est-ce que quelles équipes peuvent être intéressées par ce genre de joueur?
Ah bah il y en a beaucoup qui peuvent être intéressés, il y en a beaucoup qui se sont déclarés d'ailleurs intéressés. Je crois il y avait Indiana, Boston était aussi intéressé par ce profil shooter.
Chicago.
Ouais non mais beaucoup d'équipes sont intéressées.
Qu'est-ce que le Magic a à faire dans ce cas-là? Est-ce que le Magic devrait se séparer de lui ou pas, Nico?
Une donnée importante c'est que Redick arrive en fin de contrat cette année en fait. C'est un contrat assez solide. C'est quelque chose comme 6 millions, je crois. Du coup, s'ils veulent échanger contre quelque chose d'équivalent et à conserver à long terme, c'est maintenant ou jamais. Ou alors ils re-signent cet été, mais le fait que ce soit un contrat finissant, ça c'est un atout pour eux. Parce que l'autre équipe peut peut-être vouloir avoir ce contrat pour se faire de la place sous le salary cap l'été prochain. Du coup, c'est sur ça que ça va se jouer. L'intérêt d'Orlando, c'est ou de garder un joueur qui est somme toute correct et de prendre le risque de le perdre cet été ou de tenter de le re-signer. Ou de profiter de sa valeur actuelle tant en tant que joueur qu'en tant que contrat finissant pour récupérer une contrepartie qui pour eux sera plus intéressante que Redick ne l'est actuellement.
D'accord, donc pour toi il y a surtout avant tout comme pour Memphis d'ailleurs il n'y a pas longtemps, il y a un enjeu financier et un enjeu quand même un peu sportif derrière, il y a deux enjeux là pour ce joueur.
Oui, Après, si je peux me permettre, je crois qu'il y a deux façons de voir le cas Reddick. C'est d'un côté, tu dis que JJ Reddick c'est quand même un des piliers, pour pas dire le pilier de cette franchise d'Orlando en ce moment. Il joue super bien, il marque beaucoup pour eux. Donc c'est la première façon de voir ça, c'est de dire si on le perd, ben, ça va être quand même dédommageable. Et la deuxième façon, c'est de dire, de toute façon, Orlando a plus rien à jouer. Alors pourquoi pas se faire plaisir ou y gagner financièrement, quoi.
Ah, mais je pense exactement comme Guillaume.
Le pilier de l'équipe, c'était pas Glenn Davis? Non, excusez-moi, je plaisante. Non, mais Lisa, tu nous disais?
En termes de poids, oui.
C'est un rock. Lisa, tu nous disais?
Moi, j'étais assez d'accord avec ce que disait Guillaume. Je pense que, donc il sera free agent cette année, enfin cet été même. Et les Orlando, vu qu'ils ont vraiment plus rien à jouer, ils vont pas faire les playoffs cette année. Ils pourraient donc se séparer de leur arrière pour obtenir un tour de draft supplémentaire ou un jeune joueur pour l'avenir, donc pour essayer un peu de se préparer pour la saison prochaine.
D'accord, t'es d'accord avec ça, Laurie?
Oui, bah moi je pense qu'il faut le trader de toute façon. Ils ont rien à gagner, donc il va intéresser beaucoup d'équipes. S'ils peuvent récupérer quelque chose de bien en retour, je pense qu'il faut le trader. Lui, en plus, je pense qu'il sera content d'aller dans une équipe un peu plus dynamique.
Comme t'as dit, ils ont rien à gagner, mais ils ont rien à perdre non plus. Donc,
c'est
intéressant. Donc, enjeu financier et un peu sportif pour ce joueur. Ok. Donc, le cas de Josh Smith maintenant. Le cas de Josh Smith qu'on annonce quand même trader depuis quand même. J'ai envie de dire, ça fait neuf ans qu'il est aux Hawks, et je dirais que ça fait 8 ans qu'il est annoncé tous les février trader. Alors, qu'est-ce donc Josh Smith, est-ce que Atlanta va le trader cette année enfin ou pas, parce que là, il arrive en fin de contrat.
Cette année, c'est peut-être un peu plus probable que les années précédentes, puisque il arrive en fin de contrat et qu'il demande clairement un contrat maximum. Personnellement, je sais pas si sportivement il le mérite, contrat maximum. Enfin, faut être clair, hein, c'est un très bon joueur, mais contrat maximum, c'est ton franchise player, quoi.
Donc, parce que Josh Smith, si je ne m'abuse, 30 ou 31 ans, je crois.
Oui, déjà. Et puis, voilà. Sportivement, c'est pas non plus le mec.
Donc, un contrat maximum, admettons qu'il lui offre sur 4 à 5 ans.
Ouais, c'est ça.
Est-ce que dans 2-3 ans, il méritera toujours son contrat maximum? Parce qu'il est, il a quand même un jeu quand même basé beaucoup sur l'athlétisme.
Oui, c'est pas sûr.
Donc son jeu, voilà, est-ce que Atlanta, oui, c'est pour ça, est-ce que Atlanta a vraiment pas tout à gagner à le trader dès cette semaine, dans 2 semaines maximum?
En plus, Atlanta, ils ont quand même le souvenir de Joe Johnson, faut pas l'oublier, où lui avait quand même donné un gros contrat et on voit ce que ça a donné, ça a pas été
positif. 100 millions de dollars, hein.
Voilà, donc ils ont peut-être pas envie de refaire la même boulette avec Josh Smith. En même temps, ça peut se comprendre. Moi, après, j'adore ce joueur, donc.
Mais alors, qui mériterait un contrat maximum à Atlanta? En fait, il y a personne. Qui
non, mais il y a personne.
Personne. Mais Atlanta, c'est horrible, hein. Même pas.
j'ai entendu Jeff Stig là.
Ouais.
D'accord.
Ouais.
Non, d'accord. Non, c'était juste pour savoir si je pouvais continuer à rigoler. apparemment, j'ai lu là aujourd'hui qu'il voulait récupérer un pivot pour Josh Smith.
Ah bon, ils ont pas déjà
on a alors Ford à Atlanta, je crois, non?
Deux fois.
Mais je crois qu'il est pas quatrième, il est pas en 4, c'est pas son poste où il se sent le mieux. 4 Ford.
Qui ça? Alors Ford?
Ouais.
Oui, c'est un poste. Normalement c'est un 4, hein, ça ouais. C'est
il joue quand même 5.
5, hein. Comme c'est une hérésie. C'est comme Chris Bosh,
voilà,
quoi.
Voilà, donc ouais. En fait, on a alors Ford qui joue 5 pour laisser la place du 4
5,
à Josh.
C'est ça. Donc là, il ferait qu'il sort Ford en 4 et reprendre un pivot en 5.
Oui, mais du coup, ça veut dire que Josh Smith, il joue quoi? En 3?
Bah, Josh Smith, il est transféré.
Ah. Transféré, Josh Smith.
Ah, d'accord.
Bon, oui. Alors, qui aurait intérêt à récupérer Josh Smith à part les Celtics?
Alors, il y a eu les Celtics déjà, mais bon, cette année, avec la blessure de Rondo et tout, c'est complexe. Situation particulière, donc on sait pas. Il y avait aussi les Lakers.
Dallas.
Les Lakers en particulier, parce que on a parlé de l'échange contre Pau Gasol. Je sais pas ce que vous en pensez les autres.
On va laisser la parole à Laurie là-dessus. Dis-nous, Laurie.
Josh Smith, je l'accueille quand il veut. Hein. Il vient, je vais à l'aéroport, je l'accueille.
Chez toi ou Lakers?
Non, aux Lakers.
même pour tout le
cas. De toute façon, Pau Gasol, il est blessé là, alors.
Non mais je suis d'accord, mais en tant que là je parle vraiment à la fan des Lakers, en tant que fan, Pau Gasol contre Josh Smith. Alors Pau Gasol en pleine possession de ses moyens contre Josh Smith, tu l'accueilles à bras ouverts, Josh Smith?
Oui, parce qu'il est quand même plus jeune que Pau Gasol. Pau Gasol, moi je trouve qu'il est en dedans mentalement, il est plus dedans qu'on le veuille ou non. De toute façon, il a quand même déclaré que si D'Antoni Howard restait l'année prochaine, c'était pas sûr qu'il resterait non plus. Donc
c'est certain.
Ça m'énerve, un gars comme ça, qui arrête pas de se plaindre, faut le virer, et puis voilà. Josh Smith, contre Josh Smith, oui.
Très bien. Et à part les Lakers, bon Dallas, ouais.
Bah toujours Dallas.
Dallas, ils ont pas envie de récupérer tout le monde dans la ligue.
Si si. Mais...
Si si. Bah façon, c'est Mark Cuban hein.
Ouais c'est ça. Des quand
voilà, c'est ça s'appelle Mark Cuban. Non parce que Dallas à chaque rumeur de trade ils sont dessus.
Ouais ouais.
Bah, Dallas ils veulent tout le monde, mais au final ils ont personne quoi.
Ouais c'est ça. Bah ils ont quand même Chris Kaman.
Ah yes.
Super. Non mais je veux dire ils ont quand même récupéré Chris Kaman.
Bah ils ont Chimayo quoi. Donc bon à la rigueur.
Bon pour Josh Smith ouais, donc je pense que Atlanta oui devrait s'en séparer cette année je pense. Nico t'es d'accord?
Bah ils ont plusieurs options, ils ont celle-là puis je pense qu'un peu dans leur coin de leur tête ils pensent un petit peu à Dwight Howard quand même qui est originaire de Géorgie. Donc peut-être ils vont laisser partir c'est pour vrai. Avoir.
Et puis son pote aussi les deux.
Oui du coup alors si tu laisses partir Josh Smith pour avoir Dwight Howard et que t'as besoin de Josh Smith pour avoir Dwight Howard ouais. T'es compliqué là.
Alors une raquette Dwight Howard alors forte ce serait pas
non mais c'est inimaginable, on n'est pas sur 2K là, c'est Dwight Howard c'est soit les Lakers soit je sais pas enfin, c'est des gros marchés quoi.
C'est des gros marchés voilà ouais, c'est New York
selon son papa toujours ce ne sera pas les Nets.
Je pense que si.
Ouais, c'est ouais. À mon avis c'est la seule équipe qui pourra l'accueillir, ça sera les Nets hein.
Non. Même Boston non, c'est bah et ouais, il y avait eu une rumeur d'échange à trois équipes là, avec Brook Lopez, Nikola Pekovic et Dwight Howard.
Oui, Nikola Pekovic qui aurait atterri Nikola Pekovic qui aurait atterri à
Lakers.
Aux Lakers et Brook Lopez à Minnesota et Dwight Howard à Hornets. Ouais.
Et après il y avait un autre.
Ça c'est pareil. Pekovic aux Lakers, Laurie.
Oui, pourquoi pas. Après je le connais pas plus que ça. Je suis pas trop. Je sais qu'il fait une bonne saison. Il est quand même assez bon, mais je sais pas. Ouais.
Je pense que, enfin, ce sera pas ta star. Hein. Bon.
Ah non, c'est
Howard
sûr.
N'est pas non plus la star. Mais c'est un joueur quand même assez propre niveau pourcentage. Il prend des bons shoots. Fait du taf dans la raquette, c'est un pivot un peu à l'ancienne.
Pekovic, à l'inverse de Dwight Howard, on a vraiment l'impression qu'il est là, qu'il se pose, qu'il est serein, qu'il est dans sa raquette et qu'il maîtrise son sujet quoi.
À niveau efficacité au poste aussi, c'est très propre Pekovic.
C'est ça. Nico, t'avais un mot à rajouter peut-être.
Je sais pas, Pekovic, vous le voyez aux Lakers, mais avec Dwight Howard,
parce que les deux ensemble. Non, on voit pas aux Lakers.
Là on parlait de l'échange Brook Lopez. Alors, donc si tu nous rejoins, Nico, on parlait de l'échange de Brook Lopez. contre Pekovic, donc un deal à 3 quoi.
Et oui, du coup Pekovic il atterrissait où?
Aux Lakers, Lopez à Minnesota et Dwight Howard au Nets.
Ah oui d'accord, autant pour moi.
Voilà. Qu'est-ce que t'en pensais toi de Pekovic aux Lakers?
Je sais pas, de toute façon les Lakers ils savent pas trop où ils vont et les rumeurs partent un peu dans tous les sens, donc je sais pas trop si on peut trop y réfléchir. Dans l'absolu Pekovic c'est quand même c'est un très très bon joueur. Après est-ce que c'est pas lui qui va résoudre les problèmes des Lakers?
Non, c'est sûr.
Sait-on jamais.
L'espoir fait vivre.
la vraie question c'est est-ce que vous pensez que Pekovic a le glamour hollywoodien en lui?
Ah oui, clairement. Ah, c'est un beau gosse, hein.
faut que tu te souviennes de Vlade Divac, qui avait,
une
tête plus sexy ou glamour.
Mais et pas le glamour, c'est vrai.
Il fait de belles choses à Los Angeles.
À Hollywood,
c'est vrai.
Il fait des méchants de gangster, c'est réglé, hein.
Bon allez, on va passer tout de suite au prochain. Donc, Ayman Shumpert, Jared Dudley aussi, là, j'ai entendu aujourd'hui. Là-dessus, je crois que Guillaume, t'as un petit truc à dire ou pas?
Enfin,
que ça t'intéresse pas, c'était ça, je crois que t'avais à dire, non?
Non, pas que ça m'intéresse pas, c'est New York que ça intéresse pas, parce que je pense qu'ils veulent pas lâcher leur meilleur.
Est-ce qu'ils auraient vraiment, déjà, on va balayer ça rapidement, est-ce qu'ils auraient vraiment intérêt à trader Ayman Shumpert, qui est quand même maintenant bien installé quand même à New York?
Non, mais je pense pas que ça se fera. Je pense que c'est Phoenix qui a proposé puisqu'ils essayent de sauver un peu leur saison qui est catastrophique. Par contre, ce qui m'intéresse un peu plus, c'est Evan Turner qui est transférable.
Ah oui, voilà. On va y venir. Donc tout de suite. Alors, on a oublié tout de suite Ayman Shumpert, Jared Dudley. On va passer à Evan Turner qui est Guillaume d'ailleurs. Je crois que ça fait quand même bientôt 2-3 ans que tu le suis vraiment constamment, j'ai l'impression.
Ouais, moi je l'aime bien ce joueur. Il était très très bon à Ohio State. Nico, je sais pas ce que tu diras pas le contraire, je pense.
Il était génial, ouais. Mais on l'a jamais trouvé, hein.
Après, personnellement, je trouve qu'il a jamais eu sa chance, il a eu sa chance, mais il a pas su la saisir. Il a pas su s'adapter, je pense, au jeu NBA. En attaque, il prend peut-être pas assez de shoots. Il a pas une bonne efficacité en ce moment.
J'ai eu l'impression qu'au début, Evan Turner a pas eu vraiment l'occasion de s'exprimer aux côtés de Iguodala. J'ai pas eu l'impression que ce soit les deux coéquipiers parfaits, eux deux.
Ben,
et,
c'est pas les coéquipiers parfaits parce que les deux sont pas des scores nés. Enfin, en tout cas, Evan Turner en NBA, il pense pas à scorer en premier lieu, quoi. Il est vraiment.
Mais
là,
alors, si je ne m'abuse, au-delà du fait sportif, je crois pas que c'était non plus les meilleurs amis du monde.
Ah d'accord. Ah ça, j'étais pas dans le jeu.
J'ai eu vent de ça, donc
Oui.
Je mets ça au conditionnel, mais je suis pas sûr que c'était les meilleurs amis du monde, et je suis pas sûr non plus que Doug Collins était vraiment prêt à faire confiance à Evan Turner.
Non. Faut se rappeler que pendant un an et demi, c'était Jody Mix, le titulaire.
Voilà.
Donc ça prouve le niveau de confiance.
Il était pas du tout fait pour lui, je pense. Turner s'est fait connaître parce qu'il est à Wise State avec un jeu où c'était lui qui dominait le ballon, qui faisait tout. Là, il arrive à Philadelphie, il faut qu'il partage le ballon à la fois avec Iguodala et Jrue Holiday. Et en même temps, ces trois joueurs ont un jeu de pénétration et autour d'eux, il y avait pas de shooter, il y avait rien pour écarter le jeu. Ils sont tous marchés sur les pieds comme des imbéciles et forcément ça n'a rien donné. Et celui qui a payé le plus, c'est celui qui était le moins bien installé, donc c'était bien Evan Turner.
D'accord, donc pour un trade, laquelle équipe conviendrait très bien à Evan Turner là tout de suite?
Justement, moi je vois pas alors.
Ouais, c'est ça le souci, je vois pas non plus, mais c'est quand même un joueur assez précieux, je pense. C'est un très bon rebondeur pour un garde.
Pour un arrière.
Ouais, c'est ça. Mais en même temps, je sais pas. Alors, les rumeurs, c'est que. Philadelphie voudrait le trader pour s'appuyer sur Jrue Holiday et Andrew Bynum. Donc ça, c'est quand même une information parce que ça veut dire qu'il compte offrir un contrat maximum à Andrew Bynum, a priori, du coup.
D'accord. Lisa, un mot là-dessus?
Quand on voit qu'ils veulent se débarrasser d'Evan Turner, qui a fait vraiment un excellent début de saison, bon là, il a un peu accusé le coup ces derniers temps, mais les Sixers veulent absolument, et de la meilleure manière possible, entourer leurs deux All-Stars, donc Andrew Bynum et Jrue Holiday, le mieux possible. Donc, quitte à se débarrasser d'Evan Turner, peu importe contre qui, j'ai envie de dire, ils veulent mettre le poids vraiment sur Andrew Bynum, qui n'a encore pas joué cette saison avec les Sixers, si je m'abuse, et Jrue Holiday.
Mais la politique de Philadelphie, c'est plutôt de, ils ont Jrue Holiday, ils ont Andrew Bynum, maintenant ils vont chercher à mettre des shooters, ils ont rajouté Dorrell Wright, Nick Young et tout, Jason Richardson. Donc peut-être qu'il va
est-ce que c'est pas eux qui vont nous récupérer JJ Redick? C'est à suivre, mais dites-vous que si ça arrive, vous l'aurez entendu ici en premier, c'est ça qu'il faut savoir.
L'écho des parcs.
Ouais. Ok, d'accord. Bon, on va passer tout de suite aux outsiders à l'ouest. On va clore le débat là-dessus, à moins que vous ayez un autre trade en tête, mais je crois qu'on a fait le tour des principaux. Juste à rappeler que Kevin Garnett, lui, ne sera sûrement pas transféré de toute façon pour déjà sa clause de non-transfert. Puis s'il accepte lui-même d'être transféré, ce sera avec Paul Pierce. Donc autant dire que ça a autant de chances de se faire que voir Dwight Howard arriver au Nets dès cette année. Donc voilà. Bref, on va passer tout de suite à la suite. C'est aux outsiders à l'ouest tout de suite. C'est parti, voilà pour la troisième et dernière partie de l'émission. On va parler tout de suite des outsiders à l'ouest. Donc c'est un gros sujet effectivement parce qu'il y a beaucoup de monde. Mais avant de parler d'outsiders, on va déjà définir à savoir qui est favori pour savoir qui est outsider, parce que on se rend pas bien vraiment compte à savoir qui est outsider, qui est favori, qui est, parce que ça bouge beaucoup quand même dans la conférence ouest. Donc déjà, je vais laisser la parole à Nico qui va me dire qui est favori.
Bah, les favoris, les tout premiers, c'est a priori c'est les finalistes de l'an dernier, hein. Oklahoma City, hein.
D'accord. Toi, tu vois ça comme ça?
Bah, pourquoi je vais pas ça comme ça?
Moi, la définition que je mets derrière favori, c'est capable de gagner le titre. Aujourd'hui, j'en vois trois à l'est: San Antonio, Oklahoma et peut-être les Clippers, un peu moins, mais tout de même.
Oui, moi aussi, pareil. C'est les trois, pour moi, favoris.
C'est ce que j'entends derrière favoris.
Pas Miami?
Non, à l'ouest.
À l'ouest.
Ah, pardon.
En fait, c'est toi qui es à l'ouest.
Miami est en Floride, à l'est.
Nico, toi, tu nous dirais Spurs et Thunder, c'est ça?
Même Spurs, j'ai du mal à y penser. Ils font une très bonne saison, comme chaque année, mais je les vois pas faire plus que l'année dernière, en fait, avec Tim Duncan qui commence à se blesser, Nick Ginobili qui est pas du tout au niveau de qui est le sien.
Ouais, très très loin.
C'est pour ça que j'étais un peu resté sur Oklahoma City, en fait.
D'accord, donc pour toi, vraiment le favori à l'ouest, c'est Oklahoma City.
Ouais, sans être super emballé non plus, hein.
Lisa, t'es favori à toi?
Alors moi, je reste aussi sur Oklahoma City avec petite mention éventuellement pour les Clippers.
D'accord, Laurie.
Pour moi, Oklahoma. Puis,
ensuite... Avant de commencer, les Lakers ne sont pas un choix. Hein.
Non, mais je n'ai d'ailleurs pas cité les Lakers. Non, Oklahoma en 1, San Antonio en 2 et peut-être les Clippers.
Ouais, bon, d'accord.
Donc moi c'est ce que je voilà, donc c'est ce que je voyais aussi. J'aurais bien vu Oklahoma, Spurs et Clippers. Après donc vous allez m'arrêter si je dis faux. Les outsiders, donc ce serait les Nuggets, les Grizzlies, les Warriors. Est-ce que vous êtes d'accord
oui,
pour
oui.
l'instant ?
Pour l'instant oui.
Moi j'aurais mis les Warriors en premier sauf si t'as pas mis d'ordre.
Non mais c'est le classement actuel de la conférence,
hein, ah, d'accord, OK.
Ah, non,
okay.
Ah, c'était même pas une question de classement, je donnais donc Nuggets, Grizzlies, Warriors et j'ai envie de dire éventuellement Utah.
Ouais. Après moi je mettrais peut-être Utah, Houston, Portland.
D'accord. Donc toi tu vois
dans le sens outsider au play-off.
Je vais être clair tout de suite, Portland pas du tout.
D'accord. Moi je parle pour accéder au play-off.
Je sais pas ce que vous en pensez.
Portland non. Portland non, moi je pense que Portland, ça sera juste.
C'est quand même vachement trop aléatoire. J'ai envie de dire à l'image de Nicolas Batum pour être.
En plus là, oui. En plus il est blessé au poignet là, donc il compte quand même beaucoup sur lui. Ils le font jouer 40 minutes, je crois. Hein, donc.
Oui.
C'est énorme.
Après, faut pas s'étonner que c'est assez aléatoire, hein, parce que.
Antoine, moi je disais Portland pour accrocher une place en playoff, ouais.
Après, oui, mais quand on parle d'outsider, c'est d'équipe capable d'avancer
dans en playoffs, hein.
D'aller loin.
Voilà, comme les Grizzlies, il y a 2 ans, ouais. C'est pour ça qu'il faut remettre les choses dans leur contexte. Donc, Nuggets, Grizzlies, Warriors, et éventuellement, Utah et Houston. Voilà, ça vous va?
Ça va.
Ouais. Moi, personnellement, je vois que les Warriors et les Grizzlies. Hein. Denver,
d'accord,
j'y crois pas.
Je suis assez d'accord. Ouais. Je suis assez d'accord parce que les Nuggets, c'est vraiment...
Justement, on va en parler tout de suite.
Ouais.
On va en parler tout de suite. On va faire un point. Donc, les Nuggets, aujourd'hui, à l'heure actuelle, ce dimanche, avant l'affrontement contre les Celtics ce soir, les Nuggets sont à 9 victoires d'affilée.
Ouais.
D'accord. 9 victoires d'affilée et commencent à se poser sérieusement après un début de saison un peu compliqué, commencent à se poser sérieusement en outsider. Alors maintenant, à vous de me dire, est-ce que les Nuggets ça va avancer ou est-ce que vous voyez des équipes plus équilibrées comme les Grizzlies, peut-être même les Warriors, avancer plus que les Nuggets?
Moi je pense que les Nuggets vont déjà rattraper les Clippers bientôt. S'ils continuent comme ça.
Ah, tu penses?
Ouais.
Ah, ouais.
Enfin, Denver en ce moment joue très bien, les Clippers un peu moins bien. Mais je pense que si, dans la logique des choses, les Clippers vont démarrer et dans le sens inverse, Denver va chuter. Donc,
après,
moi, je pense pas.
Pas sûr. Hein.
En NBA, c'est aussi une question de forme et de gagner des matchs, d'enchaîner des victoires ou d'enchaîner des défaites. En ce moment, t'as Denver qui enchaîne les victoires et dans le même temps, t'as Golden State qui va très mal, dont on a parlé il y a 2 semaines, qui fait une super saison mais qui va très mal en ce moment.
Ouais, bah tu peux prendre une pâtée contre Dallas, c'est vrai que c'est pas la grande forme,
ouais,
quoi.
Oui.
C'est 25 points.
Ouais. Quand même.
Non, après là où pour revenir aux Nuggets, moi je pense pas que ça soit solide en playoff. On a déjà vu les années précédentes que ça va en playoff, mais après ça fait rien parce qu'il manque toujours ce joueur clé, quoi.
Sous l'air Carmelo Anthony, on a eu une finale de conférence.
Ouais, sous l'air Carmelo Anthony.
Voilà, non mais c'est pour ça. Et la force du collectif. L'année dernière, on a eu un premier tour contre les Lakers en 7 matchs. Est-ce qu'on se dit cette année les Nuggets vont pas pouvoir redresser la barre et aller un petit peu plus loin avec l'expérience acquise l'année dernière?
Après, je sais pas ce que Nico ou Lisa ou Laurie en pensent, mais c'est une très bonne équipe en jeu rapide en fait, en contre-attaque. Mais en ce qui concerne les playoffs, ça va surtout être du jeu posé sur demi-terrain et je suis pas sûr qu'ils soient assez rodés pour ça.
D'accord.
Justement, le style de Denver est très particulier. Hein. Je sais pas si vous aviez... Enfin, je pense, vu que vous regardez beaucoup les matchs, que Denver joue très rapidement. Et c'est à cause de leur défense aussi qu'ils sont capables de jouer des pass and lane. Ils obligent à faire beaucoup dribbler les joueurs adverses. Et s'ils posent pas un système où ils prennent un shoot dans les 10 secondes, donc l'adversaire, rien fonctionne. Donc aussi, ils ont beaucoup de très bons joueurs et il n'y en a pas un seul à mettre en avant. C'est vraiment toute une équipe. Typiquement, le match d'hier, tous les joueurs sauf un étaient à plus de 10 points. Donc je pense que c'est un gros, gros collectif qui fonctionne bien.
D'accord. Donc selon vous, on a une équipe de Denver qui joue un peu trop en contre-attaque peut-être ou en jeu rapide?
Pas forcément qu'elle joue trop en contre-attaque. Oui, enfin, vas-y Nico.
Trop, non, parce que c'est leur force aussi.
Oui, c'est ça.
Ce qu'on disait surtout, c'est qu'en play-off, en général, ce genre de jeu... n'est pas aussi efficace.
Est-ce que c'est à cause de la grosse défense qu'il y a en playoff?
C'est sûrement. Mais bon, on sait jamais, peut-être qu'ils vont réussir à inverser la tendance. Je veux dire, ils ont quand même beaucoup de talent finalement.
Ouais, je serais un peu plus réticent au niveau des supposés franchise players que sont Iguodala et Ty Lawson, que je trouve assez irréguliers. Pour Ty Lawson et Iguodala, on attendait clairement plus de lui. Bon, c'est pas le go-to guy qu'on espérait, quoi.
Voilà. Est-ce que c'est toujours le même problème en fait du côté de Denver? Est-ce que c'est toujours ce problème récurrent de leadership, ne manque de joueurs, manque un joueur qui amène tout ce côté franchise player en fait qui go-to guy de l'équipe, quoi.
Alors un franchise player défini, il y en a pas, ça c'est vrai, mais je vois bien Danilo Gallinari avoir un bon rôle dans l'équipe parce qu'on l'a déjà vu décisif beaucoup de fois cette saison en fin de match. Il est quand même à plus ou moins 17 points par match, 5 rebonds en 32 minutes. Donc moi je vois que c'est vraiment un joueur qui peut être décisif pour l'équipe.
D'accord, mais c'était un peu le rôle qu'on lui avait promis en début de saison quand même, malgré la signature de Lawson, un très bon contrat, un très bon contrat assez juteux. C'était quand même Gallinari qu'on avait annoncé comme entre guillemets le franchise player, même avec l'arrivée d'Iguodala.
Je suis pas d'accord.
Oui, au moins il tient bien son rôle.
Parce que Iguodala est arrivé surtout pour être le maître de la défense. Il a des qualités athlétiques, il y a pas de souci. Mais c'était quand même il est arrivé pour être le maître de la défense, pour installer une certaine stabilité défensive à cette équipe, non?
Oui, mais je pense pas que on ait promis le poste à Gallinari. Et dans les faits, même si c'est lui qui score le plus dans l'équipe, tu sens pas que c'est lui le leader, quoi.
Non, c'est pas le franchise player.
Ouais, je suis d'accord.
On aurait pu penser qu'il aurait pu faire comme Batum finalement, parce qu'en plus ils sont de la même année de draft, et on les compare souvent, donc on pourrait penser qu'il aurait le même rôle que Batum prend à Portland, mais je pense qu'il a pas du tout les épaules pour. Hein. C'est pas un franchise player pour moi, Gallinari. Il manque quelqu'un à Denver qui prenne le leadership.
Après, à part le manque de franchise player aussi, je pense qu'il manque une vraie force dans la raquette, une force imposante, quoi. Je sais pas ce que d'autres en pensent.
À Denver, oui. Une force dans la raquette?
Ouais, à part Kenneth Farid, un vrai pivot, quoi.
D'accord, donc on rappelle qu'il y a dans la raquette JaVale McGee, Kenneth Farid, Kostas Koufos et Timofey Mozgov.
C'est ça.
Il joue même plus d'ailleurs le Russe.
Mozgov, il joue plus.
Mozgov est toujours, et on aurait pu en parler avant, et sur la sellette.
Oui, il est toujours, j'allais le dire, oui.
Il est en psychiatrie depuis le dunk.
Dommage, c'est un bon joueur, moi je trouve. Hein.
Ouais.
Ouais, c'est un bon joueur, c'est un bon joueur, mais qui pourra aller servir d'autres équipes, je pense.
Oui, tout à fait.
Qu'il a plus sa place à Denver.
Qui va d'ailleurs servir d'autres équipes très bientôt, je pense. On l'avait pressenti à Miami.
Un mot là-dessus, Nico?
Moi, je trouve un peu dur avec Ty Lawson. Je trouve qu'il, on est d'accord que c'est pas un franchise player, mais je le vois un peu comme le meilleur joueur de cette équipe. Et celui qui peut, à la rigueur, la faire passer à un stade supérieur. Je ne dis pas qu'il va le faire, mais ce serait le joueur qui serait le plus désigné, à mes yeux, plus qu'un Gallinari ou qu'un Iguodala.
Moi, je suis d'accord.
Moi, je trouve quand même assez décevant, hein, Ty Lawson.
Ty Lawson, je trouve ça dommage. Je l'ai vu sur certains matchs tuer les matchs dans les derniers instants, et avec une facilité assez déconcertante. Je l'ai vu, c'était il y a une semaine ou deux. J'ai regardé 3-4 matchs comme ça des Nuggets, et honnêtement, en quatrième quart-temps, dans les derniers instants des matchs serrés, il avait une aisance à aller driver vers le panier qui était assez déstabilisante, et je comprends pas qu'il ne s'appuie pas là-dessus assez régulièrement.
Après, Ty Lawson, je l'ai vu manquer des matchs, mais passer, mais totalement à côté. Et un soir où il a pas son shoot et où il arrive pas à driver, eh ben c'est là que tu vois que c'est vraiment un joueur très petit.
Moi, je trouve qu'il est assez imprévisible au niveau des matchs, justement. Je te rejoins, Guillaume. Il peut être dedans et totalement dehors, quoi. Et pour moi, on peut pas. Enfin, moi, je suis déçu. Je trouve qu'ils m'ont donné un contrat qui est pas à la hauteur de ce qu'il fait, quoi.
Je sais pas s'il mérite, mais en début de saison, il méritait clairement pas son contrat. Bon, là, ça va un peu mieux. Et je tiens juste à dire que si ça se passait à New York ou à Los Angeles, il aurait déjà toute la presse sur le dos, quoi.
Exactement, là il est épargné parce qu'il joue à Denver.
Il a la chance d'être épargné par un petit marché, ouais.
Voilà, c'est ça.
OK, donc voilà, donc selon vous Denver va refaire un tour et puis c'est tout.
Voilà, un tour et s'en va.
Moi, je pense qu'ils iront un peu plus loin.
D'accord.
Après,
je suis un peu plus de l'avis de Lisa, je les vois bien en deuxième tour ou même en surprise de finale, mais
après tout, oula, tout dépend
du finale de conférence, hein, mais
finale de conférence. C'est loin,
déjà. Bah, j'imagine dans le meilleur des cas pour eux peut-être une finale de conférence. Je les vois surtout en deuxième tour, mais au pire des cas, pourquoi pas faire une
finale de conférence. Ça veut dire qu'ils doivent taper soit Oklahoma, soit San Antonio.
Ouais, mais je pense que San Antonio peut avoir des difficultés avec le jeu collectif.
Peut-être même les deux. si peut-être. Selon le classement final. C'est pour ça que c'est assez aléatoire de parler de tout ça.
Bon, à côté de ça, on a d'autres équipes, donc les Warriors, on va pas revenir dessus parce qu'on l'a fait il y a pas longtemps. Ouais. Ça va un peu plus mal pour eux, mais bon, ça, si, on va dire que c'est un passage, comme beaucoup d'équipes en ont eu. Ça. On va revenir on va tout parler tout de suite de Houston. Houston, est-ce qu'il y a une place pour Houston en playoff déjà?
Ah oui, c'est sûr, oui. Après, Houston, c'est un peu le Denver, mais sans la défense, quoi. Donc, si on est un peu trop chaud pour Denver, pour Houston.
D'accord, donc pour toi, c'est le Denver de l'année dernière.
Ouais. Un peu plus spectaculaire, un peu plus sympathique, mais bon, ça va être beau à voir en saison. C'est même bien que ça se passe parce que c'était quand même pas prévu, hein.
Non, c'était pas prévu. C'est vrai que c'est...
Mais après, bon, voilà, ils vont bien prendre ils vont se prendre un mur en playoff, ça me paraît.
Oui, c'est ça, voilà, exactement. Ils vont aller au premier tour et puis ils vont se prendre une petite raclée. Mais c'est bien, ça leur fera de l'expérience.
D'accord.
Ouais, d'expérience, parce qu'après tout, d'expérience des playoffs, donc ils sont jeunes, dynamiques. L'année prochaine, ils feront mieux, je pense.
Clairement, je les vois pas aller plus loin qu'un premier tour, mais je mettrais peut-être plus une pièce sur eux que sur Utah ou quoi, parce qu'ils ont James Harden et que sur une série de playoffs, quand t'as un mec qui peut s'enflammer comme ça, ça aide forcément, quoi.
Ouais, avoir un leader comme ça en playoff, ça peut être déterminant, ouais. Effectivement. Les Grizzlies, qu'est-ce que vous voyez pour les Grizzlies?
Bah, ils ont un peu reculé dans la hiérarchie avec finalement le transfert de Gay, je pense. Parce que là, on n'a pas encore vu les effets, mais on a quand même le sentiment qu'il y a une puissance de feu en moins, et on parlait justement des franchise players en playoff, de ces joueurs qui peuvent faire la différence à eux tout seuls. Bah, Rudy Gay, c'était un joueur comme ça, quoi. Et là, il y est pas.
Ouais, là, à Memphis, il n'y a plus ce joueur.
Ouais, ils ont quand même Zach Randolph, et je pense que c'est pour ça qu'ils ont fait ce trade.
Ouais, mais Randolph aussi, je sais pas vous, mais il est un peu décevant dans ce rôle de franchise player, je trouve. Mais
est-ce que c'est pas les playoffs qui vont le réveiller, ce Zach Randolph?
Bah, sans doute. Enfin, on espère.
Peut-être.
Ah bah, on peut tenir les paris, hein.
Ouais.
Et puis, on a l'expérience aussi de Tyshawn Prince, qui a remplacé Rudy Gay, mais qui a une expérience de playoffs, bon. Il n'a pas fait les playoffs ces dernières années, mais qui a eu une expérience de playoffs non négligeable, le champion NBA quand même.
C'est vrai.
Dans le vestiaire, oui, ça sera. Après, faut voir sur le terrain. Faut voir sur le terrain ce que ça
sur le terrain, je pense qu'on lui demandera pas de marquer 25 points de moyenne, mais peut-être qu'il peut avoir sa petite pierre à l'édifice. À...
Oui, capable de prendre le jeu à son compte quelques temps. Voilà. S'il voit que la ligue est un peu en deçà de ses.
Ouais, effectivement. Faux-fins. Donc Memphis, pareil, vous les voyez comment? Un premier tour, un deuxième tour?
Ben moi,
j'aimerais attendre de voir un peu quelle identité ils se construisent en ce moment. Là, voir
oui, là, voilà. Exactement.
Tout ça parce que là, on sait pas trop avec le départ de Gay, c'est encore tout récent. Il y a encore pas mal de choses à voir avant de vraiment avoir une vraie opinion sur eux.
Ouais, non, mais on en parlait la semaine dernière. Ouais, vas-y.
Non, vas-y, c'est bon.
Non, je dis qu'on en parlait la semaine dernière. Avec le départ de Rudy Gay, ils vont devoir trouver des points ailleurs, quoi. Et pour l'instant, ça n'a pas encore été le cas. Et ils vont devoir, je pense qu'un mec comme Mike Conley va devoir, c'est son niveau de jeu dans ce domaine, quoi. Et on verra. Mais en tout cas, en ce moment, si le classement reste comme ça, ils prendront Denver, c'est ça, non?
Oui.
Apparemment, c'est Denver, ouais.
Ouais,
exactement.
Il y a un beau match à regarder, quoi.
Ah, ça, il y aurait un beau match.
Ouais, ça serait une affiche à suivre, effectivement. Et pour finir, on va avoir Utah. Utah, est-ce qu'on a une place pour eux à Utah, là?
Non.
Moi, j'y crois pas du tout.
Hein. Voilà. Désolé, j'y crois pas.
Utah qui est une équipe assez imprévisible, hein, qui va gagner des gros matchs et qui va perdre des petits matchs.
Désolé, justement, c'est pour ça qu'ils iront pas loin en playoff.
En plus, Utah, faut dire qu'il y a un de petits chouchous qui est là-bas, Gordon Hayward.
Ouais.
Que beaucoup apprécient autour de la table.
Oui, c'est vrai.
Moi, j'en ai aussi que j'aime bien aussi là-bas, c'est Alec Burks.
Oui, Alec Burks qui commence à remontrer un peu le bout de son nez, là.
C'est ça. Bah, qui a enfin du temps de jeu conséquent.
Voilà. Et, bah, pour moi, cette équipe, je pense que, y a une petite place et peut-être même un petit poil à gratter, parce que je sens que cette année, la hiérarchie va être un peu bousculée avec toutes ces petites équipes, comme ça, un peu à la Denver, un peu à la Memphis. Je sens que les grosses écuries vont peut-être pas forcément assumer leur rôle.
Ouais. Mais est-ce que le Utah de maintenant sera le même que celui d'un playoff? Parce que entre Al Jefferson et Paul Millsap qui aussi en fin de contrat, est-ce qu'ils vont pas chercher à les transférer ou à faire quelque chose avec eux?
Bah, Jefferson, il était aussi dans beaucoup de rumeurs, il me semble.
C'est vrai.
Il préférait garder Millsap et donc.
Et Derek Favors.
Ouais, exactement. Puis ils ont encore Enes Kanter, il me semble.
On doit penser qu'en l'état actuel des choses, Utah aurait tout intérêt à essayer de se donner les moyens de gagner avec cette équipe pour ma part. C'est ce que je pense. Qu'il y a une équipe quand même assez équilibrée et qui peut faire très mal quand même sur j'ai vu quelques matchs où quand même il y a une efficacité offensive et défensive qui est pas mal.
C'est pas mal, mais après si on parle des équipes qui prétendent aux playoffs là, à cette 8e place, donc les Portland, Utah, Lakers et tout, moi je miserais sur Portland plutôt que sur Utah ou Lakers ou les poursuivants, parce que Portland ils ont pas forcément un gros banc. Mais le 5 est quand même impressionnant, et pour moi ça pourrait aller plus loin que Utah.
Bon alors, alors si vous voulez parler de Portland, on va finir là-dessus, on va faire juste un petit mot sur Portland. Si vraiment ils accrochaient la 8e place, est-ce que vous pensez vraiment qu'avec un banc comme celui-là, on pourrait passer un tour de playoff?
Non, mais au moins embêter l'équipe en 7 matchs.
Comme ils ont embêté Dallas.
Exactement, ouais, parce que là, le banc, il est trop faible. Et puis, les titulaires vont arriver épuisés. Et puis, il ne faut pas oublier que le meneur, c'est quand même un rookie. Donc, l'expérience, c'est moyen. Donc, je pense qu'ils vont bien embêter l'équipe sur laquelle ils tomberont. Ils ne passeront pas le premier tour.
Antoine, la saison est encore longue. Il peut encore remonter à la 7e place. Et là, si tu évites Oklahoma, je pense que ça peut y avoir quelque chose, quoi.
Oui, bien sûr. Non, je suis assez d'accord. Hein. C'est juste que le fait d'avoir une équipe comme ça avec un 5 si fort et un banc si faible, je pense qu'en playoff, c'est un peu limité quand même de faire jouer 40 minutes tes cadres et d'arriver avec des matchs au couteau.
Au contraire, je suis pas d'accord. Je pense qu'en saison régulière, ils souffrent de ça parce que t'as besoin de ton banc. Mais en playoff, quand t'as 4 matchs, entre 4 et 7 matchs à disputer, je pense que tes titulaires peuvent largement jouer plus de 42 minutes.
Oui, mais ils vont arriver dans quel état aussi au play-off? C'est ça la question.
C'est la question.
C'est vrai.
Très bien. Nico, un mot là-dessus pour finir?
Ouais, non, déjà, je pense que ça sera bien pour eux s'ils arrivent en play-off. Hein. C'était pas du tout ça à l'origine. Donc, ouais, ils vont y aller. Ils seront contents, hein, puis ils feront éliminer, mais ils seront avec le sourire.
Donc, je crois qu'il va être temps de conclure parce que là, je crois qu'on t'a définitivement perdu.
Ouais, je crois que...
Ouais.
Donc, on va conclure là-dessus si vous avez rien à ajouter.
Si, moi, je voudrais ajouter ce soir, victoire des Lakers contre Miami. J'annonce.
Donc,
on en reparlera.
C'est pour ça que je laisse une trace, j'annonce.
D'accord. Et donc, avant de terminer, on va en parler rapidement, même si voilà, il y a des moments dans la vie où c'est pas très gay, mais on va en parler. On tient particulièrement à porter notre soutien et nos pensées à la famille de Thierry Rupert, qui, comme vous avez sûrement dû l'apprendre plus tôt dans la journée, est décédé ce dimanche. Donc voilà, on tenait à lui rendre un hommage bien mérité.
Tout à fait.
Voilà. Et quant à nous, eh bien, on va se retrouver du coup la semaine prochaine. Et puis en attendant, on va vous souhaiter une très bonne semaine basket. Et puis mes amis, je vous dis à tous, bonsoir et merci.
Et ben à bientôt.
Merci à tous.
À bientôt, merci.
Ciao.